Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
J'ai des mangoustans chez moi.
Je sais pas ce que c'est.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Le vrai luxe, il est là. J'ai pas de montre, regarde, j'ai pas de bijoux. J'ai pas de voiture, Fab. J'ai rien, j'ai aucun secteur de richesse. Mais tout mon frigo, des mangues avions, pas en bateau comme les vôtres là. Les uns sur les autres, superposés dans le bateau, dans la cale. Non. Moi, ils ont grandi là-bas, ils ont mûri là-bas, donc on les a amenés en avion. C'est ça mon luxe, voilà.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc dans Histoire d'argent avec Kayron.
Même décor.
Même décor, même endroit, même personne.
Même vêtement.
Même vêtement également.
Même anecdote. Imagine, je fais un autre personnage. Je prends une voix. Eh bien, bonjour, je suis Kayron.
Même jogging pourri.
Et le même. Putain, t'es dur, il est neuf, il est beau.
On va sans doute en parler.
On peut en parler. Torsi, dédicace.
Merci beaucoup de venir parler dans l'histoire d'argent parce que je t'ai incité pendant l'épisode d'Histoire du succès qu'on a fait ensemble, que je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Je t'ai lancé un peu sur le sujet et puis à la fin tu m'as dit mais au fait on a fait ton podcast d'argent ou pas? J'ai fait mais non, pas du tout.
Pourquoi j'ai cru qu'on allait bifurquer en fait.
Pas du tout. Mais donc ouais, en gros merci de venir là et c'est intéressant, d'autant plus intéressant pour les auditeurs que c'est assez compliqué de se rendre compte, je crois, de la façon dont ça fonctionne chez les humoristes et chez les comédiens / artistes en fait.
Oh, artiste, ouais.
T'es intermittent du spectacle toi ou pas?
Alors bonne question. Je sais que je l'ai été. Je sais qu'à l'époque on parlait de que je devais faire des cachets. On est en 2011, je crois.
Ok.
Je me rappelle que j'ai enchaîné non-stop 2011, 12, 13, puis j'ai quitté la scène pour faire mon premier film. Donc j'ai jamais arrêté de bosser jusqu'en 2000. Je sais que jusqu'en 2018, j'ai pas touché un centime en tant que intermittent du spectacle. J'ai cotisé, mais j'ai bossé non-stop. À chaque fois, j'ai enchaîné, donc j'ai pas touché un centime. Pendant le confinement, je sais pas si j'ai touché ou pas. Mais je crois que non, je crois que je suis plus intermittent parce que maintenant j'ai monté ma boîte depuis 2018. J'en ai aucune idée. Et ça commence bien, hein, ton...
Alors on va commencer comme ça. On va commencer par expliquer que.
En fait, il faut que je répète. Mes parents gèrent mon oseille. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai une relation de totale confiance avec eux et tout ce que je gagne, il y a plusieurs sources. Tu veux, je peux te dire les sources. Il y a ce que je gagne en tant que comédien. Donc, alors je fais d'abord le spectacle.
Oui.
Kayron sur scène, je suis pas en Alain Delon quand je parle de ma troisième personne, c'est parce que non, mais je fais vraiment la part des choses entre moi ma personne, ouais, et moi la marque, le nom en fait, oui, tu vois. Donc Kayron sur scène, il y a un cachet de comédien
qui te revient pour toi en tant qu'artiste.
Pour moi en tant qu'artiste, demande-moi combien c'est.
Je ne sais pas. Enfin, je...
Non, combien... demande-moi combien c'est.
Combien c'est?
Eh bien, on a un point commun car je ne sais pas non plus. Figure-toi, je te jure que c'est vrai.
Non, mais vraiment.
Non, mais sur la tête de ma mère. Moi, je peux pas faire. J'ai fait un film pour dire à quel point j'aimais mes parents. Sur la tête de ma mère, je ne sais pas là, à l'instant T, à l'instant que je te parle, je ne sais pas combien ils m'ont caché sur scène.
Ça aussi, ça.
Mais mes parents savent.
Oui.
C'est eux que tu dois interviewer en vrai. Parce que eux, ils savent. C'est eux qui mettent le truc. Donc, ils augmentent, ils baissent. J'espère qu'ils n'ont pas trop baissé. Donc, voilà, ça, c'est. Il y a ce que je gagne sur scène.
Tu crois qu'ils augmentent et ils baissent en fonction de ta performance, c'est ça?
T'imagines, bon. C'est ignoble. Bah, t'es nul ce soir. Non, mais je pense que c'est par rapport à. Je sais pas si. Non, par rapport à. Je sais pas par rapport à quoi ils pourraient augmenter ou baisser d'ailleurs.
Moi non plus.
Je leur demanderai. Ensuite, il y a ce que j'écris. Je suis le seul auteur sur mes spectacles, donc il y a des droits d'auteur. Droits d'auteur, pour que tu... ils savent déjà, et tu les as éduqués, je pense, avec tous les différents articles que tu as reçus.
Vous pourrez
déjà dit. Bon, voilà, très bien.
J'en ai pas eu beaucoup, mais il y a Navo, vous pouvez aller écouter l'épisode de Navo.
Voilà, en gros, droits d'auteur, c'est des organismes qui récupèrent auprès de la production qui produit le spectacle, le film, le disque, ce que tu veux, sur lequel tu as écrit. Ils récupèrent et ils te donnent une part de ce qu'ils ont récupéré. Voilà. Donc il y a ça comme j'écris. Ensuite, c'est tout, je crois. Ah non, et producteur. Producteur, bien sûr, producteur. En fait, alors, producteur, c'est ma boîte, mais c'est pas de l'argent pour moi, c'est de l'argent pour la boîte. Évidemment, j'ai des parts dans la boîte. Putain, j'espère le plus possible.
Tu sais même pas combien
t'as. C'est bien, ça me permet de. Faut que j'appelle mes parents ce soir.
Tu sais même pas combien t'as de parts dans ta boîte.
Non, je te jure que non.
mais ça en dit long, hein.
Mais c'est entre trois personnes. Soit on a 33, soit mes parents ils sont à 99, moi 1, soit moi je suis à 99 et eux 0,5. Dans tous les cas, c'est à nous, quoi, tu vois. Nous, c'est vraiment un modèle particulier.
On va en parler.
Tu n'auras personne d'autre comme ça, je pense, dans tes invités.
C'est intéressant. Alors déjà, j'invite vraiment tous les gens qui créent une boîte à ne jamais faire 33, parce que c'est la merde.
Ah ouais,
ouais.
Faire 51 et...
Faut faire 51, 49. Faut qu'il y ait quelqu'un qui est...
Qui est la majorité.
Qui est 34, 33, 32, quoi, okay. Tu vois.
Eh ben,
parce
voilà.
Que sinon c'est très compliqué. Donc faut d'abord se mettre d'accord au début.
Bah nous c'est d'accord, c'est eux qui décident. Donc après c'est entre eux, c'est pas mon problème. Moi je veux avoir l'esprit libre pour créer des trucs. En fait si tu veux, l'énergie que je vais mettre pour apprendre ces histoires d'argent, c'est de l'énergie perdue pour des projets. Donc au final c'est moins d'argent.
Ouais, je comprends.
Tu vois, je suis plus rentable à réfléchir à créer des trucs qu'à essayer de comprendre les impôts, les trucs. Je n'ai jamais fait un avis d'imposition de toute ma vie.
Bravo.
Jamais, j'ai esquivé au maximum.
Non mais life goal.
Que le kiff.
Putain. Ceci dit, tu n'as aucune vision sur tout ce qui... Juste tu fais 100% confiance à tes parents.
Exactement.
Ce qui est un truc aussi ça. La première question que je pose à tous mes invités c'est si je te dis argent, ça représente quoi pour toi?
Ah, argent.
Qu'est-ce qui te vient en tête?
Alors, tu me parles à moi maintenant ou à moi d'avant?
Toi maintenant et puis on peut faire toi d'avant.
Parce que t'évolues.
Oui.
Quand j'étais petit... L'argent, c'était un vrai sujet parce qu'on était vraiment pauvres. Il faut que les gens comprennent.
Tu peux réexpliquer un peu l'histoire?
Oui, bon,
peut-être.
En fait, je suis pas né en France. On est venu, mes parents ont dû quitter l'Iran. On est parti en Turquie, recherché par le gouvernement, mis à mort. Voilà, on arrive en.
Quelle idée aussi d'avoir des
convictions.
Voilà,
ouais, j'arrêtais pas de leur dire. Et donc, foyer, Turquie, France, voilà, ville très pauvre. On démarre à zéro, il parle pas français, mon père veilleur de nuit.
Vous étiez où à Pierrefitte, c'est ça?
On a commencé, on était dans un foyer à Lyon, Villeurbanne.
Okay.
Ma mère et moi, on était là-bas, et mon père était en banlieue parisienne, il travaillait, il nous envoyait de l'argent pour qu'on puisse rester dans le foyer. Jusqu'à ce qu'il y ait une situation pour qu'on puisse le rejoindre ici. Donc séparé aussi en plus, tu vois. On arrive, on commence avec Stein. Père veilleur de nuit à Canal+. Là, moi, je bosserai plus tard pour Bref.
Fou.
Les stars et belles. Ma mère aide domicile pour les des voilà. Et donc vraiment on commence en bas, on est au début du jeu, tu vois. Et donc on se rend compte, moi je me rends compte vite que l'argent c'est un manque. Mes parents sont adorables, ils font tout pour que je me rende pas compte. Un jour mon père va faire les courses, je me rappelle de ça. Un jour il va faire des courses et il rentre avec une peluche. Ma mère elle dit où sont les trucs que tu vas acheter. Il dit ouais mais il a pris la peluche, il voulait pas la lâcher et tout. Elle dit, ah, t'as bien fait, vas-y. Donc, ils ont mangé de la merde pendant deux jours pour que moi je puisse avoir une peluche, tu vois. J'adore les fruits. Ceux qui me connaissent savent chez moi, mon frigo, il y a que des fruits. Et quand j'étais petit, bah, ça va peut-être de là, je sais pas, mais quand j'étais petit, j'aimais tellement l'odeur des fruits que quand il y avait un marché, ma mère, elle faisait le tour, elle passait par 3-4, elle faisait un autre itinéraire pour aller là où elle devait aller, pour pas que je sente l'odeur des fruits, parce que je pleurais. Parce que quand j'étais trop pauvre, on pouvait pas en avoir. Mmh. Quand on faisait les courses, quand j'étais petit, il fallait vraiment choisir genre entre le beurre et le lait. Les crêpes de ma mère étaient dégueulasses. Ça, faut que tu le saches. C'était extrêmement sec. Et donc j'ai ce rapport-là à l'argent au début, où je me dis, non, l'argent c'est important, on n'en a pas, il nous en faut, tu vois. Même s'ils ont tout fait pour que je ne le vois pas. Un jour, mon père rentre avec un portefeuille. Ça, j'ai regretté parce que j'ai eu le flash qui m'est revenu après Nous ne croirons rien. En promo. Je raconte ça, je me fais, putain, pourquoi je l'ai pas mis dans le film? Les gens, ils auraient kiffé. Mon père rentre avec un portefeuille. Avec des liasses dedans. À l'époque, je crois, il y avait, je sais pas, 250 francs, 500 francs. C'était un vrai truc, hein, 500 francs, quand j'étais petit. Et quand ma mère, ils se regardent tous les deux. Et genre, je vais mettre dans le film. Tu penses comme moi? Elle dit, ouais. Et en fait, la scène d'après, ils appellent tous les noms dans le répertoire du gars. Donc on perd de l'argent pour essayer de savoir à qui appartient le portefeuille pour lui rendre son argent. Donc j'ai été élevé avec ce truc de on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être intègre. Je n'étais pas d'accord. Mais ils ont essayé de me mettre ça dans la tête, mais je n'ai pas écouté.
Il est content.
Bah ouais.
Juste pour rappeler, pour les gens qui ne savent pas, mais tu as effectivement raconté l'histoire de tes parents et ton histoire aussi à travers ce film qui s'appelle Noutre-Rien, qui était ton premier film,
ouais.
où tu racontes tout ça, si jamais ça vous intéresse d'aller écouter. Puis tu as aussi raconté un peu ton passé d'éducateur,
ouais.
À travers ton deuxième film.
Exactement.
Parce que le mec ne fait que ça.
Raconte que sa vie.
Et dans ton troisième film, t'as raconté comment t'as voulu tuer ton père.
Exactement. Tu vois, c'est ma vie aussi. Mais c'est un pote, un comédien qui s'appelle Foudil Kaibou. Un jour, il m'a dit, mais toi, t'as un truc avec le père. Tous tes films, ils parlent du père. Je me pas du tout. Dis-nous trop rien. Le père, mauvaise herbe, t'éduques les enfants, le père. Brutus, ton père. Je dis, ah putain, t'as raison, merde. Ouais. Attends, je vais te raconter un vrai truc en plus. J'ai un autre souvenir qui m'est venu. C'est qu'en fait, donc ma mère, elle travaillait à Stein. Mon père à Pierrefitte, les deux dans le social. Et les deux, vraiment, mes parents sont super intelligents. Et travailleurs surtout. Quand ils font un taf, ils le font au maximum et ils vont vite et loin. Et donc très vite, ils se retrouvent tous les deux à l'idée, à devenir les chefs de ce qu'ils font. Puis les chefs de ce qu'ils font à un plus haut niveau. Et je me rappelle de débats quand j'étais petit, quand je demandais à... Là, je sais pas, genre je suis... allez, je suis au lycée, tu vois. Donc on parle de gens qui sont arrivés à... Avec 50 francs, hein,
ah oui.
Qui parlent pas français, etc. Et quelques années plus tard, je dis, mais maman, qui gagne le plus d'argent entre vous? Mon père, il fait, bon, moi, je gagne un peu plus, c'est normal, ta mère vient de débuter dans ce travail et tout. Ma mère fait, mais pas du tout, je gagne plus que toi. Je dis, mais non, fais rejeter, t'es gentil, mais quand même, je gagne un peu plus, je dois être à 1000 euros de plus et tout. Du pas du tout. Et ma mère, elle avait un truc d'orgueil sur l'oseille. Non, moi, je gagne autant, voire plus que toi. Sors tes fiches de paye. Et il y avait des battles. Et les deux, franchement, ils ont terminé à la retraite, ils ont terminé avec des 4-5 000 euros, tu vois. C'est pas mal pour des immigrés qui sont arrivés à 20 ans, tu vois.
Grave.
Et donc, j'ai été élevé très tôt avec ce truc de l'argent, c'est la liberté, en fait. L'argent, c'est le choix. Voilà. Et donc, forcément, moi, c'est un sujet qui me parle, la liberté. Donc, forcément, l'argent pour arriver à la liberté, c'est un truc qui me parle, tu vois. Et aujourd'hui, ce que ça m'évoque, c'est ça, voilà. Ça m'évoque le choix de manger ce que je veux, quand je veux. Tu sais que l'essentiel de mon oseille va dans les livraisons de bouffe.
J'allais dire, est-ce que ça va dans les fruits? Non.
Beaucoup de fruits, ouais.
Beaucoup de fruits.
Ouais. J'ai un marché à côté de chez moi qui coûte extrêmement cher. C'est indécent. Je regarde plus quand je paye, en fait.
Ouais.
Parce que ça m'énerve. Cet hiver, il y avait des litchis avion. Toute ma vie, j'ai mangé des litchis, les litchis marrons, là. Je crois que c'était ça, les litchis. Maintenant, je gagne bien ma vie. J'ai découvert, les gars, c'est pas les litchis. On vous a carottes. Vous êtes pas du bon côté des litchis. Vous n'avez pas accès aux vrais litchis. Les vrais litchis, déjà, il y a encore les feuilles et les branches. Mmh. Les vrais litchis sont roses, Fab. Putain, roses. Moi, marron, j'étais content. Les gros noyaux. Non, c'est des tout petits noyaux. Voire, il n'y a pas de noyaux. Fab, il y a des litchis où il n'y a pas de noyaux.
C'est pas possible.
Je te jure, il n'y a pas de noyaux. Et donc, je suis parti à ce marché-là pour acheter des trucs, c'est à côté de chez moi, et je vois les... c'est indécent, les prix que je mets dans les fruits. Par semaine, je mets 300 euros de litchi.
Ah bon ?
J'ai honte de le dire. C'est mon péché mignon, le luxe des fruits. Moi, j'achète des petites bananes... fraisinettes. Petites bananes fraisinettes. Je t'arrose, moi. Mon oseille est là-dedans, moi. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je m'habille comme un clodo, mais j'ai des fraisinettes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai des mangoustans chez moi.
Je sais pas ce que c'est.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Le vrai luxe, il est là. J'ai pas de montre, regarde, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de voiture, Fab. J'ai rien, j'ai aucun secteur de richesse. Mais tout mon frigo, des mangues avion, pas en bateau comme les vôtres là. Les uns sur les autres, superposés dans le bateau, dans la cale. Non! Moi, ils ont grandi là-bas, ils ont mûri là-bas, et on les a amenés en avion. C'est ça mon luxe, voilà.
En même temps, ça nique la planète, hein, si je puis me permettre.
Franchement, alors ça, c'est un sujet.
Ouais.
Je ne culpabiliserai pas une seule seconde.
Okay.
Parce que nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est rien du tout. et t'as des pays, des gouvernements, des sociétés qui froissent la planète dans tous les sens, ouais. Et on nous fait culpabiliser, nous contribuables, non, laissez pas couler votre eau, mettez là le sachet vert dans le jaune. Non, je refuse d'y croire, ça je suis pas d'accord avec ça, je te jure. En plus, moi j'ai une théorie, c'est que on ne fait rien à la planète, parce que la planète va se régénérer. Oui. Au pire, c'est la race humaine qu'on va tuer.
Oui.
Est-ce qu'on mérite tant que ça de rester en vie? Vraie question.
Vraie question.
Voilà.
Pour revenir à une question du podcast.
Pardon. Là, vous ne le voyez pas, mais il est recroquevillé sur lui-même. J'ai pris l'ascendant dans le... Il ne se sent pas bien. J'ai pris l'ascendant, je suis en train de... Je le mets dans les cordes.
C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent?
Mon premier souvenir par rapport à l'argent... Ah, depuis petit?
Ouais. Ton premier souvenir.
Mais j'en ai pas.
Si.
Je te jure que non. Attends, je réfléchis. J'essaie de remonter petit, pièce... Je crois que j'avais une tirelire. J'avais une tirelire quand...
T'es arrivé d'Iran, t'avais quel âge?
2 ou 3 ans.
Ok.
Non, je te jure, j'ai pas de souvenir. Je veux pas te sortir un souvenir qui date de quand j'étais en primaire, tu vois.
Bah, c'est bien aussi.
C'est bien aussi.
Si c'est un premier souvenir marquant.
J'ai un souvenir, mais c'était un peu plus... C'est une anecdote.
J'avais 18 ans.
Non, j'étais au collège et je mettais de côté mon argent. Pour, je sais plus pourquoi, mais je mettais de côté de fou. Je faisais vraiment attention pendant plusieurs mois et moi, je mettais tout mon argent de côté. Et tu sais, on avait toujours de la visite dans ma famille. Toujours un blédard qui vient s'incruster, un oncle, un cousin, un truc, un réfugié, quelqu'un qu'il faut protéger. Qui...
Ah, il va se faire tuer, alors il va dormir dans ton lit.
Donc, avec aucun cœur, tu sais. Le mec, il met ton peignoir et tout, je suis vénère. J'ai un peignoir, j'ai mis des années à voir. Tu imagines, je suis au collège, je suis en 6ème, j'ai un peignoir. J'arrive, il y a un grand moustachu dedans. C'est trop la haine. Et donc, je mettais tout mon argent de côté.
C'est une histoire vraie, ça.
Ah oui, c'est une histoire vraie, bien sûr, c'est une histoire vraie. Mais les pauvres, c'est pas de leur faute. Ils viennent, mes parents, ils vont lui. Un dans le salon, l'autre dans la chambre de mes parents et un dans ma chambre, tu vois. Mais oui. Mon peignoir, wesh. Et donc, je vois. J'ai un oncle et une tante. Et ils venaient me chercher tous les jours à la sortie du collège. Et ils m'achetaient des pains au raisin, des éclairs au chocolat tous les jours et tout. J'étais trop content. Et dernier jour, quand ils sont partis, j'ai appris qu'en fait, ils servaient dans ma tirelire. J'avais trop la haine.
Putain.
Des mois. Vraiment, je leur en ai voulu, mais longtemps, genre.
Tu en as reparlé ou pas?
Non, ma mère me dit arrête et tout, c'est pas cool et tout. En plus, je les adore, ils sont trop gentils. Ils sont venus en France pour mes deux mariages. On a enterré l'âge de hier. Ah, mais c'était quand j'avais vraiment la haine. J'ai pleuré et tout, vraiment.
Bah, bien sûr.
Non, j'avais vraiment la haine. Mais eux, ils croyaient bien faire. Ils avaient une commode avec de l'oseille. Ils ont prié, on fait plaisir aux petits. On va le rincer. Moi, je me suis auto-rincé. Non, j'avais la haine. Bah, je cherche plus tôt que ça.
Ça, c'est déjà pas mal comme anecdote.
Hein. Ouais, bah, franchement, j'ai pas beaucoup de. En fait, je le parle pas, mon argent. C'est ça que je te dis. C'est que je le gère pas. Mm-hmm. Je sais pas combien j'ai. Mm-hmm. Et c'est tout par carte.
Mais c'est un vrai truc, ça aussi.
Tu viens chez moi, c'est le pire appart pour le cambriolage. Franchement, s'il y a des cambrioleurs, ils viennent, installez-vous, prenez un café, parce que vous allez vous faire yèche. J'ai pas de bijoux, pas de montre, pas de liquide, tout est encastré.
tout est encastré. T'as un coffre-fort, en revanche.
Non, pourquoi avoir un coffre-fort?
C'est une vanne.
Ah oui, non, mais je n'ai rien chez moi. Donc, comme je palpe pas l'argent, je sais que j'en ai, parce que je peux avoir des trucs grâce à ça. Tu vois, mais je sais pas combien. Et je sais pas où il est, virtuellement, je me le représente pas.
Mais tu te rends compte que ça en dit beaucoup sur ton rapport à l'argent, le fait de pas savoir, de pas vouloir savoir en plus. Parce que là, par exemple, tu vois, tu pourrais très bien faire en sorte que... Tu vois, par exemple, moi, j'avais une boîte avec 35 salariés,
ouais.
D'accord?
Putain, bravo.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'était une boîte qui brassait de l'argent, tu vois, où il y avait
une
boîte qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout. Je gérais pas du tout la compta.
Ok.
En revanche, je savais en permanence combien il y avait.
D'accord.
Parce que pour gérer, j'étais obligé de savoir combien il y avait. Sur le compte, tu vois, en termes
Mais c'est
de...
pas moi qui gère.
Oui, c'est ce que
c'est
je te
ça,
dis.
C'est ça le truc. Là, en fait, comme c'est mes parents, je dis autoproduction, ma boîte, etc.
Mais tu non. sais même pas combien il y a de thunes.
Non. J'en sais rien.
Tu ne sais pas...
Non mais je peux leur demander hein. Là oui. Je les appelle, je leur demande, oui, ils vont me dire, tu vois, ouais. ils me cachent rien. Et même c'est eux, ils me disent, tu vois, c'est un sujet qui me saoule, mais souvent ils me disent, tu sais, on n'est pas éternel, un jour on sera pas là, il faut que tu commences à. Et je leur dis, mais quand vous serez pas là, quelqu'un va vous remplacer. Hein. Croyez pas que c'est moi qui vais faire ça. Je vais perdre de l'argent.
Ouais.
Je vais en donner. Tu sais que je sais que ma mère,
Ta mère, elle se rémunère?
Oui, mais combien?
Tu sais même pas?
Non. Mon père, il se rémunère ou pas? Je sais pas. Ou peut-être qu'elle se rémunère pas, j'en sais rien.
Mais est-ce que c'est... est-ce que c'est une façon de... Comment dire? Est-ce que c'est une façon d'esquiver le sujet? Vous avez jamais eu une discussion... Enfin, tu vois, ils te font pas des points, par exemple?
Si, bien sûr que si, mais ça rentre pas, dans ma tête.
Ah, t'oublies.
Ma mère, elle me dit... Là, on a fait, par exemple, on a fait 8 cirques d'hiver.
Ouais.
Elle me dit... alors voilà... on a fait tant de billets, tant de trucs. Putain, malgré le Covid, malgré truc, et t'as gagné tant. Et je fais, c'est bien ou pas? Elle me dit, ah bah oui, parce que normalement, on avait prévu tant, et toi, t'as fait tant. Je dis, ah bah mortel. Vas-y, on va fêter ça, enfin, resto. Et une heure après, j'oublie, je ne sais plus à combien c'est. Je sais que c'était bien. Je sais qu'ils sont contents de ce qu'on a fait au cirque d'hiver. Mais tu sais que je te mens pas en plus. Hein.
Je sais bien que tu me mens pas.
Je suis vraiment. Et puis.
Mais c'est ce que je veux dire.
En
c'est
fait,
que...
c'est une porte pour moi quand t'ouvres la porte. Mm. Quand t'ouvres la porte de. Quand moi j'ai le luxe de pas avoir à le faire, c'est ça. Et du coup, ça me permet d'être plus créatif.
Ouais.
Ça me permet d'être focus que sur des choses plus importantes. Et tu vois, par exemple, là j'ai un projet autour du Five. Ça va me coûter de l'argent pour le mettre en place.
Alors le Five, c'est le.
Ah oui.
C'est du foot en salle.
C'est du foot en salle, ouais.
Formation.
Enfin, si on...
Pour les gens qui. Ça se joue à 5 contre 5, si
exactement.
J'ai bien compris.
Exactement.
C'est une sorte de mini-football, quoi.
Ouais, non, mais là, c'est réducteur. C'est très, très tactique.
C'est du baby-foot.
C'est dur.
C'est du baby-foot.
C'est dur. Je vais pas répondre parce que j'ai pas d'argument. Parce qu'il a raison. Mais je me rends compte que c'est nul, en fait. C'est un vieux sport. Je vais arrêter.
Non,
moi, j'adore. J'en fais beaucoup, etc. Je vais investir dans ce domaine-là.
À vrai dire, moi, j'aime pas trop le foot.
Moi non plus.
Parce que c'est trop. Justement, c'est sur un trop grand terrain.
Tu vas kiffer.
Petite digression. En fait, pour moi, le futsal, justement, c'est vachement plus. C'est plus technique. T'es obligé d'être plus technique, en fait.
C'est super. C'est un échappatoire. T'as des sensations. C'est un jeu collectif. Il y a plein de combinaisons possibles. C'est vraiment un sport à part entière. C'est pas du foot. D'ailleurs, il y a plein de mecs qui nous rejoignent. Parce qu'en fait, j'ai commencé. J'ai la chance aujourd'hui de jouer avec des gens vraiment très forts. Vraiment au niveau national, je parle.
Tu veux dire Kylian Mbappé?
Non, mais par exemple, tu vois, dans mes gardiens qui viennent régulièrement, il y a des gardiens d'équipe de France, par exemple. Et dans les joueurs qui viennent régulièrement, il y a aussi des joueurs de D1, de futsal, de D2 qui ont fait l'équipe de France aussi.
Et toi, t'es là au milieu comme un couillon, quoi.
Bah, en fait, moi, j'ai appris la tactique. Ils m'ont appris et je fais ce que je peux avec ce que je sais faire. Il y a des trucs que je pourrais jamais faire et ça sert à rien, mais je me suis spécialisé dans un truc que j'essaie de faire au mieux.
Tu leur fais des blagues. Ça les déconcentre.
Non, c'est le rôle des pivots offensifs. Comment je suis premier degré quand on parle des Five? Je suis premier degré de fou. Mais du coup, je joue avec ces gens-là qui ont un vrai niveau et il y a souvent des gens du foot à 11 qui nous rejoignent. Et bah, ils sont pas forcément forts. Mm. C'est un autre sport. C'est vraiment autre chose. Mais c'est fascinant. Et donc là, je vais investir dans ce domaine-là sur un projet. J'ai eu ma mère au téléphone hier. Je lui ai dit, maman, on peut le faire ou pas? Elle m'a dit oui. Je lui dis, est-ce que ça nous handicape? Est-ce que si on le fait et que ça marche pas, on est dans la merde ou pas? Elle m'a dit, on n'est pas dans la merde. Je lui dis, alors on le fait. Je sais pas combien ça va coûter. Mais elle sait. Elle a tout budgétisé.
Okay.
Elle a tous les chiffres. Mais moi, si tu me dis, ça va coûter tant, je peux me dire, attends, ça va coûter tant. Ah, mais c'est cher. Et ça va, si ça marche, on gagne combien? Bah, si ça marche, on gagne tant. Ah, mais ça, c'est pas beaucoup. C'est relou un peu d'investir tout ça, non, pour gagner que ça. Elle me dit, ah ouais, mais c'est toi qui veux le faire. Alors que là, aujourd'hui, juste, je suis en kiff, j'ai un projet passionnant qui va me prendre plusieurs mois de ma vie et je suis heureux de le faire.
Putain, je comprends, c'est. Oui, c'est un vrai luxe.
C'est un luxe, c'est un vrai luxe. Moi, j'ai une chance, je suis à part en fait. Tu n'auras pas ce modèle-là avec d'autres invités.
On en parlait dans Histoire de succès, mais tu disais que justement, ça te permettait de pas avoir à choisir entre l'artiste et le producteur, justement.
Exactement.
De pouvoir investir des trucs. Là où l'artiste dirait, moi j'ai trop envie de faire ça, ou là où le producteur dirait, putain, mais en fait ça coûte cher de faire ton affiche, quoi.
Et c'est pour ça qu'on a l'artistique, c'est vraiment moi. Mes parents ne prennent aucune décision sur l'artistique. J'ai le veto au final. Et l'argent, c'est eux. Je ne prends aucune décision sur l'argent. Parfois, par exemple, tu vois, je te dis une connerie, mais on va quelque part, on fait une date. Une fois, j'ai fait 3 dates en 24 heures.
Quoi?
3 dates en 24 heures.
Ok.
Je suis arrivé, c'était en Belgique, je suis arrivé, j'ai joué à 19h, puis 21h30.
Dans la même salle.
Dans la même salle. Puis le lendemain, 16h. Et je suis reparti en fait. J'ai fait 3 spectacles en 24 heures. Et j'ai dit à ma mère, ouais maman, c'était difficile de faire les 3 là, etc. C'était un peu, là tu m'as chargé un peu, t'as abusé. Elle m'a dit, je te dis combien on a gagné ou pas? Je lui ai dit, est-ce que ça peut me donner envie de recommencer et de mettre mon plaisir de côté parce que c'est une grosse somme? Elle m'a dit oui. J'ai dit, alors me dis pas.
Ok.
Je préfère pas savoir.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est trop intéressant. Hein? Non, mais c'est vrai. J'ai un mec là qui m'a filé un coup de main et en fait je lui demandais quel était son rapport à l'argent et il me disait mais en fait moi mon rapport à l'argent il passe avant tout par la créativité. En fait je suis créatif, j'ai des idées, j'ai des machins et en fait l'argent il finit toujours par arriver.
Parce qu'il aime ce qu'il fait.
Tant que tu restes dans ta zone de créativité.
Et que tu te donnes à fond. Attends, je crois que je me suis mal exprimé. En fait, je crois que j'ai mal raconté comme tout à l'heure quand j'ai mal parlé, j'ai dit je suis pour l'extermination de masse. En fait, moi, ce que je voulais dire, attends, c'était que le fait, si je sais combien je gagne, ça va m'inciter à le refaire.
Oui, alors que, en fait, t'as tiré un peu sur la corde.
C'est ça.
Je l'avais compris.
C'est
comme
bon,
ça,
c'est que je préfère pas savoir pour pas avoir. Pour pas à le refaire.
Parce que sinon, tu vas faire que ça.
Parce que va me dire on a gagné tant, je vais ok on refait trois fois et maintenant en sachant pas combien j'ai gagné, je préfère dire on arrête, on fait plus ça maintenant, on l'a plus refait depuis d'ailleurs. Ok, c'était clair.
Non c'était clair. Très bien. T'as quand même envie de gagner de l'argent?
Bah oui.
Bah dis ça, tu dis ça comme en fait tu pourrais très bien l'éloigner de toi.
Non, l'argent c'est j'ai pas honte de l'argent parce que l'argent c'est la liberté en fait, c'est ça le plus important et c'est un moyen en fait, c'est pas une fin en soi de compter combien tu gagnes, de savoir qui gagne le plus que toi. Tu sais que c'est marrant parce que souvent il y a ce truc, on est dans des métiers où même si tu sais ce que tu draines, tu sais pas ce que tu gagnes vraiment. Donc tu vois un tel, il fait telle salle, tant de dates, tu vois les prix, tu fais waouh, il a dû faire tant d'argent, mais tu sais pas combien va dans sa poche au final. Moi je sais que je suis pas celui qui draine le plus d'argent. Il y a des humoristes qui vendent beaucoup plus que moi, d'autres beaucoup plus cher, d'autres qui font beaucoup plus de dates, d'autres qui font beaucoup plus de films, tout ça. Mais moi, je sais que je suis celui qui touche le mieux sur chaque euro qui draine. Là où un humoriste traditionnel ou un comédien ou un réal, ce que tu veux, il va toucher 25 centimes sur un euro, moi, je vais toucher 90 centimes sur mon euro. Alors, j'ai moins d'euros qui rentrent, mais je vais plus toucher parce que les gens qui gèrent ça, ils font attention. Il n'y a pas de 200 intermédiaires. Et grâce à leur gestion et à leur surveillance, je sais que je ne me fais pas carotte. Et quand, je dors tranquille.
Et quand tu dis leur gestion, tu parles de la gestion de tes parents.
Mes parents, bien sûr. Mes parents. Ah, mais ils gèrent tout. Après, on a des partenaires. Hein. On a un tourneur, on a une billetterie, des gens avec qui on bosse, il y a les salles, etc. Mais eux, ils ont vraiment le final cut. Ils gèrent les contrats. Enfin, j'ai aussi des avocats, tu vois. Mais ils supervisent tout. Ils font vraiment 5 métiers chacun, en fait, avec moi, mes parents. Mais comme moi, on est polyvalent en fait dans notre famille, tu vois. Même moi, je suis auteur, réal, plein de trucs. Et aussi, ils ont dû s'adapter en fait. C'est important de t'adapter parce que si tu veux pas le faire toi-même, tu vas devoir payer quelqu'un pour le faire. Et tu vas donner des responsabilités à quelqu'un, donc du pouvoir à quelqu'un. Et il faut être sûr de la personne. Et vraiment, en plus, une phrase que je répète souvent, c'est rare les compétences. Mais vraiment, hein, combien de boulangeries dégueulasses tu connais franchement? C'est rare les bonnes boulangeries parfaites, tu vois. C'est pareil pour les avocats, c'est pareil pour les chanteurs, c'est pareil pour les plombiers, c'est pareil pour tous les métiers en fait. C'est rare les gens compétents. Donc quand t'as quelqu'un de compétent, tu t'accroches et il a un coup. Et le mieux c'est quand même de réussir à être soi-même compétent si t'arrives. Donc moi j'ai la chance d'avoir deux personnes ultra compétentes, je vais les essorer.
Tu parles donc de tes parents.
De mes parents, je vais les essorer. Carottez-moi bien tant que vous pouvez parce que quand je vais revenir dans le game là, ça va être bien, bien différent.
Parce que ce que tu disais aussi, c'est que t'as...
Ah, parce qu'ils sont pas éternels. Non, mec, il part en vrille.
Non, mais tu sais même pas combien ils gagnent, tu sais même pas... Enfin, tu vois, si ça tombe, tes parents sont en train de te faire sont en train de partir, de s'organiser, de tout foutre ton argent sur un compte offshore aux îles Caïmans.
Franchement, qu'ils le fassent.
Comment tu vivrais ça? Je sais.
En fait, je me dis, ce qui me permet de, c'est comme ce que je te racontais tout à l'heure, quand je te dis que j'ai pas raconté aux gens, mais récemment j'ai fait un truc que je faisais pas d'habitude et que j'ai fait pour faire plaisir à un pote. Voilà, je vais pas retourner, on s'en fiche. Je me suis trouvé une raison de faire quelque chose. Moi, mes parents, ils m'ont pas donné la vie. Ils m'ont donné la vie, puis ils m'ont sauvé la vie. La plupart des gens leur ont conseillé, quand ils ont quitté l'Iran, de me laisser là-bas et de me récupérer plus tard, par avion, comme les mangues. Bien passager, hein. De me laisser, tu vois, c'était trop risqué. T'imagines, tu traverses une frontière avec un bébé qui pleure la nuit. Je pleure, les gardes, les douaniers, les chiens, ils m'entendent, c'est fini. On est tous morts, en fait. Un groupe de 12, ils meurent à cause de moi qui, tu vois, qui crie. Donc, ils ont pris des vrais risques en m'emmenant. Donc, ils m'ont sauvé la vie. Eh ben, franchement, j'aurais pas dû avoir la vie que j'ai eue. S'ils veulent me carotter, qu'ils me carottent. C'est pas grave. Et ils le feront pas, de toute façon.
Bah non.
Mais même si elle veut qu'ils le fassent, tant mieux.
T'as pas peur de transformer en Britney, non? C'est ça.
Freak Aaron.
Non, mais c'est une vraie. C'est
non,
fou,
franchement,
c'est...
non, ouais. Franchement, non, pas une seconde, vraiment, pas une seconde. Je te jure. C'est les deux seules personnes sur Terre en qui j'ai une confiance aveugle. Genre vraiment à... De toute façon, même je dis ça, mais en vrai, je suis assez fataliste. Moi, je suis prêt à me faire carotte. Je suis prêt à ce que la personne en face me mente. Quand je suis avec une fille, je suis prêt. Je me dis qu'elle m'a déjà trompé, en fait. Elle m'a déjà trompé, ça, et c'est fait. Dans ma tête, je me suis conditionné. Si un jour, elle me dit « je t'ai trompé », je dis « oui, bah, t'as mis du temps à me le dire ». Mais c'était hier. Oui, mais ça fait 10 ans que je le sais, moi. Je savais que t'allais le faire, de toute façon. Et du coup, en étant comme ça... T'es pas désagréablement surpris, tu tombes pas de haut, tu vois, et tu prends tout avec un peu plus de recul, tu vois. Quand tu te dis, ma meuf, elle m'a trompé déjà, c'est sûr, elle m'a trompé plein de fois déjà, elle a un amant depuis 3 ans, et qu'elle te dit, écoute, hier j'ai vu un gars, je l'ai trouvé beau, je suis bon, ça va, c'est tout, allez, tu vois, et c'est pareil, donc je suis fataliste, j'accepte tout, donc j'ai confiance aveugle en mes parents, et les autres personnes, je suis. J'ai compris vite que chacun a son intérêt, et quand les intérêts y convergent, on est tous sympas, et quand les intérêts divergent, ouais, c'est un monstre, il m'a trahi, t'as pas trahi, les intérêts ils ont divergé, c'est tout.
Comment t'as la sensation que tes parents t'ont éduqué justement dans le rapport à l'argent avec le temps?
Mes parents ils sont très ils sont à l'ancienne, l'immobilier, tu sais,
parce qu'on est bien d'accord qu'en Iran ils avaient une situation de ouf.
Ah, mais mon père, il était juge. J'ai mis avocat dans le film pour la vanne, parce que le truc, mais mon père, il a fait des études pour être juge. Et ma mère, elle était infirmière dans les montagnes, en hôpital psychiatrique aussi, tu vois. Non, ils avaient une vraie situation. Et puis surtout, s'ils avaient accepté ce que le gouvernement du Shah d'Iran leur proposait, là, c'était fini. Là, on aurait été riche, vraiment riche, tu vois. Mais ils ont refusé. Ils ont complètement refusé. On est parti. Ils m'ont éduqué dans un rapport où l'argent est important. C'est mieux d'en avoir que de pas en avoir, on va pas se mentir. Il y a aussi un truc qui m'a marqué quand j'étais petit. C'est marrant, mes parents voulaient pas des aides de l'État. Ça me revient d'un coup là, en fait. Ils avaient aucun jugement vis-à-vis des allocations et tout. Ils trouvent le système super, mais eux, ils voulaient pas en bénéficier. Je crois que ça m'est resté aussi un peu ce truc de... Là, par exemple, tu vois, J'ai un pote qui est... Attends, c'est quoi, je te fais écouter?
Ouais.
Attends. Regarde, tu vas voir à quel point c'est vrai. J'ai l'ami d'un pote, bon, qui est devenu un pote aussi, tu vois, qui fait des... Tu vois ce que j'ai sur le dos ou pas? Les ventouses avec les saignées, oui. Et ouais. Les trucs d'aiguilles. Il fait ça, et il est venu m'en faire quelques-uns. Et je voulais le payer à chaque fois et tout. Et il me disait la prochaine fois. Il m'a fait plusieurs séances sans me demander d'argent. Et
pourquoi il te demandait pas d'argent?
Bah parce que c'est un pote d'un pote. Donc il a dit on verra plus tard, etc. Il voulait pas demander d'argent, tu vois. Et là il m'a dit t'es dispo mardi pour me le faire. Écoute le mémo vocal que je lui ai laissé. Attends, je vais en même temps.
Toi déjà, tant que tu m'as pas donné ton RIB pour te faire un virement, je te réponds pas. Bisous.
Et tu vois, depuis les messages, je n'ai pas répondu. Il me propose des dates et je lui réponds pas. Parce que j'aime pas avoir des dettes. Mm. Tu vois. Donc j'ai ce rapport-là À l'argent, j'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Je veux être clean. Je suis un Lannister. C'est le seul côté Lannister que j'ai. Après, si j'avais une sœur, je sais pas. En tout cas, sur l'oseille, un Kairon, il paye ses dettes toujours. Donc, je paye mes dettes, tu vois. Et je déteste devoir de l'argent à quelqu'un. Je déteste être dans cette situation de devoir. Voilà. Et
t'as la sensation que tes parents t'ont un peu.
Je pense que ça vient de ce truc-là aussi, tu vois.
Le truc d'alloc.
Ouais, parce que tu vois, même par exemple, en tant que immigré, en tant que français, mais d'origine immigrée, tu vois, il y a souvent ce débat de. Peut-être t'entends souvent toujours. Et même les Français de souche, ils aiment que les immigrés disent la France m'a tout donné, elle m'a tout appris, elle m'a tout offert, je lui serai éternellement et tout. Bah, moi, franchement, je pense que j'ai largement payé ma dette. Mais je suis dit en frontal, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas sain d'être dans un rapport où à vie t'es dans un truc avec quelqu'un et tu donnes sans jamais être rassasié de. À un moment donné, pour pouvoir être heureux et libre, il faut pouvoir dire j'ai fait assez. Moi, la chance, la France m'a donné une chance, m'a permis de grandir ici, m'a donné accès à un savoir, à des infrastructures, à une liberté d'expression, à plein de choses. Mais entre ce que je paie en impôts, entre ce que j'ai fait en création de travail, au niveau culturel, la résonance de la France, même au niveau international avec mes films, avec tout ce que j'ai pu faire aussi à mon niveau, bah moi je compte dire que je peux mourir demain, ma dette elle est payée, tu vois. Et si chaque immigré fait autant que j'ai fait, bah on serait bien, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas être dans un rapport où j'ai l'impression de devoir quelque chose. Quand je dois quelque chose, je fais tout, je veux le rendre et on est à zéro, on est clean et je peux partir tranquille. Et ça, je pense, ça vient de mes parents, c'est inconscient. Mais c'est ce truc de. On veut pas d'aide de l'État. Attention, je veux pas qu'on pense que on est contre les aides de l'État pour les gens en galère, parce que c'est pas le cas. Hein. Ah oui. C'est juste que mes parents, par boost, par orgueil et fierté de on n'a pas besoin de ça, mais parce que eux, c'est des psychopathes aussi, tu vois. On n'a pas besoin d'aide de l'État, on va faire sans. Et ben, ils se sont mis dans un mood de taf, de fou, et ils ont réussi à changer leur destin, en fait. Mais je veux vraiment qu'on sache que, attention, je suis absolument pas contre les aides de l'État et tout. Hein.
C'est Paul Taylor qui est un de tes camarades humoristes qui racontait que quand il a démissionné de chez Apple, il est bossé pendant très longtemps chez Apple, il a fait le choix de pas prendre le chômage pour se foutre dans une forme d'urgence, tu vois, financière, de se dire putain, comme ça au moins je suis obligé d'aller chercher la thune, quoi, tu vois.
C'est un tempérament. Chacun fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il pense. Et tu vois, mes parents aujourd'hui, eux, ils ont fait ça. Mais il y a des gens, il y a des amis, je leur conseillerais pas de faire ça. Parce que je sais qu'ils ont besoin de plus de temps, ils ont pas forcément la structure mentale pour absorber ça ou pour se dire, ok, je vais mettre en place un plan en quatre étapes, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mes parents, ils m'ont vraiment beaucoup appris en méthodologie aussi.
En méthodologie.
Méthodologie d'un projet, quel que soit le projet en fait. Ça veut dire, le projet dont je te parle, que je vais lancer autour du Five, ça fait un an et demi que j'y réfléchis. Je vais le lancer là, tu vois. Ça fait un an et demi que dans ma tête, la machine, elle est créée. Il manque une courroie. Il y a un truc qui fait que c'est pas sûr à 100%. On attend, je vais trouver. Je vais réfléchir, je vais gamberger dessus. Là, la courroie, je l'ai trouvée, ça y est. Je vais enclencher le truc, maintenant, je peux y aller. C'est que, avant de faire des choses, il faut tout faire avec méthode. Quoi que tu fasses dans la vie, même si on parle d'argent en dehors de ça, oui. il faut tout processer. Quand tu arrives à processer un mécanisme, c'est que déjà dans ta tête, t'es prêt.
Comment t'as fait pour définir ta valeur au début de ta carrière d'humoriste ? Parce que t'as démarré tout petit, quoi.
Alors, il y a un truc, si tu veux qu'on parle d'argent, ouais. Quelque chose d'intéressant, mais c'est par rapport au cinéma. Ouais. En humour, c'est simple, en fait, c'est l'offre et la demande. Voilà. Ma valeur,
C'est pas aussi simple que ça.
Dis-moi, dans quel cas précis, par exemple ?
Bah, en fait, tu peux très bien avoir... tu vois, par exemple, je pense à notre ami commun Yacine Bellous, tu vois. Yacine qui a vraiment pour moi qui a des vannes de l'espace,
un génie, on peut dire le mot génie,
et qui n'a jamais réussi à le transformer en à amener ses blagues à un niveau qui lui permette vraiment de pouvoir percer, quoi.
Alors faut que Yacine il analyse, ouais. Est-ce que
je crois que Yacine a peur de gagner de l'argent, mais ça c'est
autre chose, ça c'est entre lui et ses problèmes intramuros, il faut qu'il gère ça. Mais Yacine, on peut pas commencer en disant autre chose que c'est un génie. Voilà,
ça c'est sûr,
on est clairement d'accord sur ça. Ensuite, il faut que Yacine, enfin il faut que moi, tu me poses la question, j'ose, hein, c'est moi qui te réponds, mais jamais j'oserais dire Yacine, voici ce que tu devrais faire, frérot. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il analyse là où ça pêche, justement. Est-ce que c'est le spectacle qui pêche ? Est-ce que quand les gens viennent, ils rigolent pas assez ? Est-ce qu'ils rigolent en se disant « je rigole, mais c'est quand même trop niche » Est-ce qu'ils viennent et ils sont morts de rire, ils aimeraient en parler à d'autres gens, mais les autres gens n'arrivent pas à venir ? Est-ce que c'est les gens qui ne viennent pas le voir ? Ceux qui ne viennent pas le voir, est-ce qu'ils ont vu son affiche ? Est-ce que son affiche est percutante ? Est-ce qu'ils ont vu un extrait de lui qui est percutant ? Et il faut, en fait, il faut tout analyser. Il faut prendre à la base et il faut faire en sorte de comprendre d'où vient le problème. Le diagnostic, c'est trop important. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas les éléments qu'a Yacine, mais il les a forcément.
Ouais.
Il a suffisamment de recul et d'expérience. C'est un gars, il a tout fait en stand-up. Il a animé des scènes. Il est venu en tant que novice. Il a fait des grosses salles, des zéniths. Il a fait des tout petits endroits. Il joue devant 20 personnes. Il a une expérience au cinéma. Yacine, c'est un comédien incroyable. Donc, il a toute l'expérience et toute l'expertise. Il faut juste qu'il accepte, mais ça se trouve, il le fait. Hein, tu vois, moi, je te dis juste, je dis Yacine, ça pourrait être n'importe qui. Il faut juste accepter d'être face aux choses qui peuvent nous blesser, nous vexer, nous peiner, et de se dire, ah, c'est ça qui pêche. Ok. Eh ben, je suis peut-être pas prêt à l'entendre, mais je vais devoir l'entendre pour avancer, en fait.
Ok. Donc, tu disais, pour toi, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Ah bah oui, okay. C'est que ça. Yacine, aujourd'hui, je sais pas à combien sont ses spectacles, mais si je dis n'importe quoi, si je joue dans une salle de 200... et qui remplit en une semaine quand il met en vente à 20 euros, bah, la prochaine session, il va la mettre à 25. Et s'il remplit pareil en 5 jours, il remplit quand même le jour J, il va monter à 30. Et puis si à 30, il voit qu'il galère un peu plus, il va mettre un peu de promo, il va tenter de faire un truc par-ci, par-là. Si ça ne marche pas, ah, il est monté trop haut, il finit sa session, la prochaine session, il redémarre à 28.
Bah, tu vois, tu sais faire du business.
Ah oui, ça complètement, mais okay. Je ne sais pas combien j'ai gagné au final. Mais par exemple, sur le cinéma, j'ai un bon exemple. Quand je décide d'écrire mon premier film, donc j'ai pas d'expérience au cinéma, j'ai jamais rien fait, etc. Je me renseigne et je demande au producteur combien il compte me payer. Il me donne une somme.
Dont tu te souviens plus.
Si.
Ah.
Si, si.
Tu peux la sortir alors ou pas? Vous le voyez pas, mais il est gêné présentement.
Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Non, je vais pas te la donner, mais je vais te donner. Mais tu vas avoir un équivalent, tu vas comprendre. Tu vas capter.
Ça fait l'équivalent de deux voitures.
C'est quoi une voiture?
Je sais pas, j'en sais.
Je sais pas comment. Tu sais que j'ai jamais conduit de ma vie. J'ai pas de voiture. Je sais pas du tout combien ça coûte une voiture.
T'es gêné de parler d'argent?
Non.
De somme. T'es gêné de parler de somme?
Ouais, parce que en fait, les gens te cataloguent vite dans un truc où. Eh, vas-y, pourquoi tu te plains? T'as de l'argent. Ou il y a un truc aussi un peu de. À force de... Tu connais l'imam Chalgoumi ou pas?
Non.
Bon, c'est un mec qu'ils invitent toujours pour parler de l'islam. Il est à côté de la plaque et une fois il a dit la mésidence. Et là j'allais dire mésidence. À force de l'imiter, j'allais dire mésidence. Pardon. Le vrai mot c'est médisance. Il y a tellement de médisance qu'en fait c'est donner des perches gratuites. J'ai gagné tant par-ci, par-là, tu vois. Ouais. Mais je vais faire plus simple, regarde.
Tu sais ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est que justement j'essaie de faire parler des gens qui ont gagné beaucoup d'argent aussi pour montrer au reste du monde. J'allais dire leur montrer comme si j'en avais beaucoup moi. Mais moi aussi.
Alors vous voyez pas la part dans laquelle je suis, mais croyez-moi, il a beaucoup d'argent.
T'es ouf.
Il y a des moulures au sol.
Tout est.
C'est des ruisseaux, ça n'existe pas ça.
Tout est relatif. Mais en fait, ouais, ce que j'essaie de faire aussi avec le podcast, c'est que j'essaie de montrer ce qui se passe dans la vie des gens qui ont beaucoup d'argent. J'ai invité notamment ce mec. Vous pouvez écouter cet épisode qui s'appelle Sébastien, qui a vendu sa boîte. Une somme à 8 chiffres. Il ne peut pas donner la somme contractuellement, okay. Mais c'est plus de 10 millions d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Wow.
Et en fait, il raconte qu'il galère à réserver une chambre à 700 balles.
Pourquoi il galère?
Parce qu'il n'arrive pas, pour lui, c'est gâché. Et avant
c'est une pince.
C'est pas une pince. C'est ça qui est compliqué,
hein.
C'est que c'est pas une pince.
Est-ce que quand il... Ça se fait cling, 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 cling.
Mais t'as pas encore écouté cet épisode avec ce mec qui s'appelle Christian Junot, là. Je te l'enverrai.
Ouais, tu me diras.
Mais parce que lui, il parle de ça aussi. Il parle de l'aspect radin et généreux. Il dit, mais en fait, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. C'est pas soit t'es radin, soit t'es généreux. Ils disent, il y a des moments, il y a des situations, il y a des périodes où voilà, quoi. Et il y a des choses pour lesquelles tu peux avoir envie de dépenser plus d'argent et d'autres choses pour lesquelles moins.
J'ai une anecdote.
Vas-y.
Je te la donne.
Vas-y.
Je connais un mec. Il est. On parle de famille fortunée. On parle plus de riche.
Okay.
On parle de famille fortunée. On est sur.
Lagardère.
Je peux pas dire son nom.
Voilà.
On est sur des centaines de millions d'euros.
Beaucoup d'argent.
Vraiment. Et il me racontait une anecdote quand il était petit. Quand il était plus jeune, je sais pas, à la fac, au lycée, il avait organisé une soirée. Et. Son grand-père, qui est ultra blindé. il pensait qu'il avait... Lui, il a acheté 2000 euros d'alcool. Son grand-père avait compris 200 euros. Il lui a fait la morale. Il a dit, mais pourquoi tu mets 200 euros d'alcool? Ça va pas, c'est n'importe quoi. C'est trop, etc., etc. Restait 2000 euros. Il grandit. Ce même grand-père, quand il cherche un logement, son grand-père lui achète cash un appart à 3 millions d'euros. La morale, c'est qu'en fait, il faut choisir où dépenser. Il y a des gens qui savent où dépenser. C'est ça qu'il y a des dépenses qui sont des investissements pour plus tard. Tu vas inviter telle personne au resto ce soir-là, tu vas mettre 200 euros, tu vas avoir la haine au moment de l'addition, mais il va te le rendre au centuple. Et tu vas aller acheter ces trucs-là qui ne vont te servir à rien plus tard. Tu es en train de perdre ton argent. Mais ça, c'est un savoir-faire que moi, je n'ai pas malheureusement. Sinon, moi, je ne mettrais pas 300 euros dans des litchis. Mais c'est ma vérité. Moi, c'est mon plaisir, ah,
c'est ça. Plaisir. Donc en fait, en vrai, c'est pas grave.
J'ai des potes qui vendent des montres. Regarde cette montre-là, il paraît que les Rolex, ça change, genre que ça, tu peux toujours les revendre plus cher et tout. Ça, c'est une Rolex, tu peux la revendre plus cher. Achète-la maintenant et tout. Ça me parle pas en fait. Ça me parle pas. Je sais pas quoi faire avec ça. Donc ouais. Moi, j'ai rien de tout ça, tu vois. Je maîtrise pas.
Donc le cinéma, tu me disais.
Le cinéma.
Le producteur qui t'a donné une somme que t'as pas voulu donner. Donc.
Ah, je t'explique. En gros, il y a une somme. Il m'a proposé une somme pour écrire le scénario.
C'est ce qu'on appelle un développement, c'est ça? C'est-à-dire qu'il produit, en gros,
ça,
il met un ticket.
Ça veut dire que voilà, moi j'arrive, je lui donne le thème, je lui dis à peu près où va aller l'histoire, j'écris quelques dialogues, je fais un synopsis, je raconte tout le truc pour le sécuriser, qu'il sache où je vais, et lui met une somme, d'accord? Est-ce que je te la donne, putain? J'aime pas faire le truc de langue de bois, putain. En même temps, c'est pas révélateur, ça va rien apporter.
On s'en fout, si t'as pas envie.
En gros, il me propose une somme. Somme de premier film, donc pas ouf, pour écrire.
J'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
Ouais, vas-y, je te le dis, putain, tu me saoules.
Non, mais t'es pas obligé.
25 000 euros.
Ok.
Pour écrire le scénario. Un film entier, 25 000 euros. Okay. Ça te prend un an de ta vie. Ça va, c'est pas non plus.
Ah oui, c'est pas dingo.
Voilà, il me propose ça pour écrire.
T'as vu comment t'es déjà en train de justifier, ça va.
Ouais. La même chose pour. Réaliser.
Ok.
C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et la même chose pour jouer.
Ok.
Ah, mais là, tu sais exactement où je vais aller, là.
Non, pas du tout.
Ah, si, parce que moi, je connais mon histoire. Je sais exactement comment tu vas. Oh, t'es chiant, putain. Ok, j'ai menti. C'est pas ça, les chiffres. Alors, c'est une autre histoire. C'est un autre film. C'est un mec que je connais qui a été voir un producteur, mais c'est pas ce producteur-là. Il a proposé une somme pour écrire son film.
C'est chiant, putain.
C'est pas ça. Il a proposé une autre somme. J'ai oublié combien, mais c'était pas ça du tout.
Pourquoi t'as honte?
Je sais pas.
Mais ça, c'est trop intéressant. C'est ce que je veux faire avec ce putain de podcast.
Après, les gens, ils jugent.
Mais
après,
jugent quoi, en fait
après,
t'es en train de dire que tu vas.
Ils critiquent.
Que t'as touché.
Ils critiquent, mais ils cliquent.
T'es en train de raconter que t'as touché 75 000 euros pour faire un film qui a fait 600 000 entrées.
Non, ce qu'on m'a proposé, attends.
Oui, c'est que t'es allé plus loin.
J'ai bien géré mon truc.
Bah oui, bah ça aussi, ça m'intéresse.
Bon, vas-y, allez, je le balance, pas grave. Donc, ils ont. Donc, ça, il m'a, donc c'était le truc proposé. Pour me séduire et me donner envie de trucs et tout, il est monté à 15 de plus, 25 de plus, on est à 100.
Ok.
Donc, pour mon premier film, écrire, jouer, réaliser, on parle de 2 ans et demi de ta vie. 100 000 euros.
Ok.
Je fais tout pour que les gens divisent par mois, pour qu'ils se rendent compte que c'est pas si ouf que ça. Voilà. Mm-hmm. Je prends le temps, calculatrice. 100 divisé par
24.
24.
Ah non, plus, 30.
Plus, 36.
30, 30. Non, pas 36.
On va dire. Allez, 40. 40. Moi, c'était 40 pour moi. Dans cette histoire hypothétique qui n'est pas mon histoire, c'était 40 en tout cas.
C'était pas du tout ton
histoire.
C'est
pas moi du tout. Et donc, et moi, je dis, mais attends. Comment tu justifies? Je dis putain, mais moi je viens du stand-up, écrire des vannes et tout, je connais et tout, et je dis putain, mais je pensais qu'au cinéma on gagnait plus pour écrire. Je dis comment tu justifies ça? Il me dit bah parce qu'en fait je prends un risque. La somme que je te donne, tu vas, il se peut que personne ne veuille du film.
Potentiellement ce film peut ne jamais exister.
Bah ouais. Et moi je vais te donner cette somme là et tout et on sait pas un truc. Et je dis ok. Ça veut dire que si je renonce à ce risque, si je te fais renoncer à ce risque et que je viens avec le film tout fait et qui marche, Il me dit, ouais, mais il peut ne pas marcher. Je dis, ouais, mais s'il marche pas, j'ai perdu mon temps, j'ai pas eu un centime. Mais s'il marche, tu prends plus aucun risque. Il me dit non. Je dis, bah alors je veux le triple.
Good job.
Il me dit, donc là, tu vas aller t'isoler, tu vas écrire un film pour rien. Je dis, ouais. Et c'est ce que j'ai fait.
Ok.
Et tout le monde le voulait, le film.
Donc en gros,
il a été financé en 3 jours.
Tu lui as dit, moi, tu me files rien.
Qui tout double.
Ok.
Je prends rien, je prends tous les risques.
Mais tu me fileras 300 000 balles si. Si...
Alors, ça, c'était pas ces chiffres-là, parce qu'on est vraiment sur une histoire hypothétique. C'était plus 7 000 euros.
Ok, ok.
7 000 euros.
De, 2005.
C'est vraiment 7 000 euros
pour 2 ans et demi de travail.
Pour 2 ans et demi de travail. Et, mais c'était un temps partiel, sur des heures quand même creuses. Voilà, c'est pour ça que. Non, mais c'est pour ça que voilà, il faut que les gens sachent.
Tu travaillais entre 3h et 6h du matin, quoi.
Voilà. C'était pas ouf. Tu vas recevoir un coup de fil de l'agent de presse. Non, mais du coup, c'est surtout cet esprit de dire non, mais attends, mais moi, je vais pas travailler dans le vent. Mais cette somme-là, au final, bon, après, on s'en fout, mais.
Peu importe, t'as pris un risque.
J'ai pris un risque.
En fait, moi, ce qui m'intéresse au-delà des chiffres, je m'en fous, tu vois. C'est que t'étais pas obligé de donner
pas,
cette
hein,
somme.
Bon, ouais. Bah, super, tu me dis ça à la fin.
Mais c'est pas ça, c'est ce qui m'intéressait là dans cette anecdote, c'est que tu me dises, OK, en fait, j'ai pris un risque en me disant, OK, bah, je prends pas ce montant-là, mais en fait, tu me le tripes si jamais le truc il est bouclé.
C'est ça, parce que t'as plus de risque en fait.
T'as pris un risque.
C'est moi qui prends tous les risques.
OK.
Voilà, donc. Et il peut pas dire non.
Bah non.
Parce qu'en plus, quand je viens,
tu lui as fait
vu que le film il est pas signé,
tu lui as fait gratuit.
Oui,
là, pour le coup.
Et puis quand je viens, le film il est pas signé, du coup, il lui appartient pas. Donc si lui, il se positionne pas dessus, vu qu'il a aimé le film, bah moi, je peux aller voir quelqu'un d'autre aussi.
Juste parce que
c'est un cercle vertueux.
Il faut expliquer aussi aux gens que quand ils te donnent de l'argent au départ, c'est aussi pour mettre une grosse option dessus. Pour...
Ah non, c'est plus une option, ça lui appartient.
C'est pour l'acheter quelque part. Quoi.
Ah oui, ça veut dire que si par exemple, c'est là qu'il faut faire très attention quand tu signes au début, il faut le dire aux jeunes auteurs, c'est qu'il peut. Si t'as pas mis une clause disant que par exemple, c'est toi qui le réalise le film, bah il peut, tu l'as écrit, c'est bien. Après 6 mois, tu lui rends et dis par contre, on va prendre un autre réal, c'est pas toi qui va le faire. Ça lui appartient en fait.
Ouais.
Donc, tu cèdes ce que tu as écrit pour une somme.
Ok. Bah, c'est très intéressant. Merci pour cette anecdote pleine de chiffres.
Encore une fois, je le répète, tout est fictif.
C'est hypothétique. C'est pas du tout...
C'est fictif. Ça n'existe pas. On parle de personnages qui n'ont pas existé.
C'est fortuit.
Exactement.
Mais alors, pour revenir au stand-up, parce que tu dis c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais en fait, quand tu démarres... T'es quand même dans un truc où...
T'es au chapeau quand tu démarres. Enfin, moi, mon époque, maintenant, oui. Je vois que ça a changé. Mais moi, je suis largué, là,
T'es toujours
que...
du chapeau, là, aujourd'hui, je crois. Hein.
Oui, mais par exemple, tu vois des mecs, ils sont sur...
Alors, en gros, pour les gens qui savent pas, le chapeau, c'est...
illégal.
Vous rentrez gratuitement, effectivement, c'est très peu légal. Mais vous rentrez gratuitement dans la salle. Généralement, c'est dans des bars et tout. Vous prenez une conso, donc le bar s'y retrouve. Et en fait, les gens donnent à la fin ce qu'ils veulent dans un chapeau, quoi. D'où le chapeau.
C'est ça. Et bah, à mon époque, c'était comme ça.
T'étais très fort d'ailleurs, je me souviens que
ouais, je les braquais les gens.
Super fort.
Ah, je les braquais.
Pour foutre la
pour
pression.
Pour faire culpabiliser les gens. Ah ouais. C'est, ah là là là, tu sais quoi, il passait. Ah là là, il va mettre 50 euros. Oh, j'espère que vous allez suivre derrière. Le mec, il avait rien mis du tout.
Surtout, tu disais, les gens, franchement, pas de pièces.
Ouais, pas de bruit.
Moi, je veux que ce soit.
Je veux que ça fasse. Ouais, je veux pas de bruit, je veux pas de bruit de pièces, pas faire peur aux voisins.
Au moins 5 balles.
Ouais, il faut mettre un maximum de vannes pour donner envie aux gens de mettre de l'argent. Ah ouais, c'est précaire. Hein. Quand tu commences l'humour, c'est vraiment précaire. Mais après, à l'époque, maintenant, je sais plus du tout comment ça fonctionne parce que je vois que ils sont suivis sur les réseaux. Il y en a plein, ils ont des chaînes YouTube et ils se mettent à l'humour et d'autres moins, tu vois. Mais je pense que le système, il a changé aussi. Mais du coup, à mon époque.
Il y a toujours du chapeau. Hein.
Oui, il y a toujours du chapeau. À mon époque, en tout cas, tu étais obligé de commencer comme ça. Donc, c'était chapeau. Et puis ensuite, bah, tu te faisais remarquer, tu signais dans une prod. Et ensuite, bah, en fonction de. C'est la prod qui décidait combien t'étais mis en vente.
Mais tu t'es tout de suite dit que c'était un truc avec lequel tu pouvais gagner de l'argent ? De faire des blagues ?
Ah, tu veux dire quand j'ai commencé l'humour ?
Ouais.
Mais moi, je pense que tu peux avoir de l'argent dans tout.
Vas-y.
Pour moi, il n'y a pas un domaine où je me dis « Oh non, ça, c'est pas rentable, j'y vais pas. » Même des pailles. Je vais créer des pailles carrées. Si j'arrive à faire en sorte... que les plus gros fast-food, ils viennent chez moi. Voilà, tout à l'heure, on parlait par exemple de méthode, tu vois. Très con. Je vais lancer des pailles carrées. Idée nulle. D'accord ?
Les pailles, déjà, c'est une idée nulle.
Voilà. Mais maintenant, vas-y, pailles carrées. Ou n'importe quel concept. Donne-moi un concept. On va faire plus simple. Toi, tiens, invente-moi un concept.
Non, les pailles carrées, c'est très...
Pailles carrées. Donc, je me dis... Là, je suis là dans ma tête. Hein. Je vais faire en sorte que les pailles carrées, ça cartonne. Comment je vais faire ? C'est ça la méthodologie. Donc, la question, c'est pas est-ce que c'est rentable. C'est pour que ce soit rentable et que je fasse de l'argent avec ça, il y a deux possibilités. Soit je vais aller chercher le domaine du luxe et de la rareté, soit je vais aller chercher la masse. Si je pars sur le luxe et la rareté, il faut que j'ai des pailles carrées personnalisées. Il faut que ce soit des objets comme des gourdes qui s'utilisent pas qu'une seule fois. Donc, je vais me servir de mon réseau pour rencontrer des créateurs et leur proposer un partenariat pour qu'ils me fassent une collection privée avec des pailles carrées. Et ce sera ta paille que tu emmènes partout avec toi, exemplaire limité. Celle-là, elle est faite par tel designer, celle-là par tel concepteur, celle-là par tel star qui l'a signé. Et l'objet reste, même si tu mets de l'eau, du coca, de l'alcool, ce que tu veux. Et partout en soirée, la mode, ce sera de sortir sa paille carrée. Et comme tu as des cartes Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh, ah, cette paille carrée-là, il n'y a que 100 exemplaires. Oh, celle-là, on a 7 millions. Voilà. Là, je viens de te lancer un business qui n'existe pas. Maintenant, si je pars sur la masse, il faut au contraire que j'ai des gros groupes avec moi. Donc, il faut que je donne envie à des gros groupes, McDo, Burger King, etc., tous ceux que je peux rencontrer, de faire des partenaires avec moi sur des pailles carrées, sur des événements précis. Comment faire ? Il faut une excuse. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, dans le calendrier, qui pourrait justifier, par exemple, la forme carrée ? La forme carré, tu vois, là, je cherche. Il n'y a rien, il n'y a pas une fête, un truc avec carré. Vas-y.
Non, je ne sais pas.
Pour que, par exemple, si j'arrive à approcher une grosse enseigne de ce que tu veux, de fast-food, et qu'on fasse un partenariat avec cette fête. Imagine que je trouve un concept avec Halloween, avec le truc carré. Pour, pendant une semaine, pour Halloween, ils aient que des pailles carrées et que c'est moi qui leur fournisse. Tu vois ?
Là, après, le monde entier veut des pailles carrées.
Non, peut-être que c'est nul, peut-être que les deux trucs que j'ai dit ne fonctionnent pas. Mais tant que j'ai pas mis en place une bonne méthodologie, je ne peux pas m'en rendre compte. Une fois que j'ai créé les deux processus, les deux chemins, j'ai dessiné les deux chemins, maintenant on va y aller. Maintenant peut-être qu'en appelant Burger King et tout, ils vont dire pas carré, ouf, on a essayé à 2 ans, c'est de la merde, salut, fin. Mais sans avoir le chemin, je ne peux pas décider ce que je veux faire. Mais là j'ai deux chemins en parallèle. J'ai mon cadre, voilà. Je sais comment évoluer. Et si les deux chemins me disent non, bah, les pailles carrées, il n'y a pas d'oseille avec. Mais je commence pas en me disant, il n'y a pas d'oseille dans les pailles carrées, j'y vais pas.
Très intéressant. Et donc, tu as la sensation d'avoir été une paille carrée, toi, à un moment donné, ou d'avoir...
D'avoir été une paille carrée ? Bah oui, complètement. Complètement. Parce que... Mais ça part toujours d'une envie. Quand... Je l'ai déjà raconté plein de fois, mais j'ai pas fait du cinéma parce que je voulais en faire. À la base, quand t'es humoriste et que tu marches sur scène, ça fonctionne... En France, comme dit, c'est le truc le plus facile à produire et c'est ce qui marche le mieux, donc c'est la facilité d'aller voir des humoristes. Tu vas voir n'importe quel humoriste qui a un spectacle qui marche, tu dis fais-moi un film dans le style de ton spectacle, on va te mettre 2-3 millions, ça va pas coûter cher, tu nous prends une ou deux têtes d'affiche, vous portez le film, si vous faites 600 000 entrées, on est refait, on est heureux, avec un peu de chance et de la promo, on fait 1 million, jackpot, tu vois, donc c'est la facilité. Et on est venu me voir à la base pour faire un film dans l'énergie de mon spectacle, irrévérencieux, trash, un truc, Kéron de Bref, tout ça. Et moi je me suis dit de quoi j'ai envie de parler. Et quand je me suis dit tu sais quoi, il y a un thème que j'ai jamais abordé sur scène parce qu'il est trop dense, c'est l'histoire de mes parents. Là c'est le lieu. Je vais parler de ça en fait. À ce moment-là c'est une paille carrée. Après la question c'est comment faire pour que ça plaise. Ok, faut que ce soit sur le ton de la comédie. Parce que si c'est juste un drame sur les rangs, etc., ça va trouver des financiers, mais ça va pas parler à tout le monde. Moi, je veux que ça parle à tout le monde. Donc, comédie dramatique. Ok, mais comédie dramatique, putain, sur des Iraniens. Tu les fais parler iraniens ? Non, on va perdre tout le monde. Tu les fais parler français d'avant, de l'époque ? Non, ça marche pas. Tu les fais parler comme on parle aujourd'hui. Ouais, mais alors comment c'est qu'on est en Iran ? Parce que tous les gens autour, ils vont parler iranien, en fond. Donc, on sait que ce sont des Iraniens que nous, on entend. Ça, c'est bon, c'est validé. Ok. Casting, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, étape par étape en fait. Et ma paille carrée, elle a pris vie à ce moment-là. Mais au moment où moi j'ai l'idée de l'écrire, je me dis pas, ah mais ouais, ça va être mortel. Je sais pas où ça va aller.
Très intéressant. Merci beaucoup, Kéron. C'était hyper intéressant.
C'était un plaisir.
Ça fait une heure qu'on parle d'argent et.
Et j'ai pas été gêné plus de 3 fois.
Non. Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'est très utile.
T'as un autre concept ? Cuisine ? Vas-y, moi j'ai le temps aujourd'hui.
Bah, daron.
Daron. Mais j'ai pas d'enfant. Ou peut-être que je suis pas au courant.
Peut-être que t'as un enfant.
C'est mon rêve d'avoir un enfant. C'est mon rêve absolu. Non, mais zéro van de tout ce que.
Bien écoutez, n'hésitez pas à envoyer un message à Kéron. Si
je cherche une mère porteuse.
Ou je cherche une maman.
Une coparentalité.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Même une coparentalité.
J'ai pensé à un moment donné à ça.
Ok.
Tu vas me prendre pour un ouf. Je te jure, j'ai pensé.
Non, je suis d'accord avec ça.
Non, j'ai vraiment pensé. Trouver quelqu'un qui. qui avait la même vision de vie que moi, mais qui n'était pas forcément en couple avec moi,
ouais.
pour que justement, si ça se passe mal entre nous, il n'y ait pas de répercussions sur ouais. les enfants.
Il y a tellement de nouvelles façons de faire famille maintenant, si tu veux, que je suis pas.
Ouais.
J'étais
loin.
J'avais reçu un mec, bah, je vous mettrai le lien d'ailleurs, parce que je passe mon temps à faire de la promo entre mes épisodes. J'ai reçu un mec gay qui avait une de ses meilleures amies qu'il connaissait depuis 10 ans. Et en fait, il est allé la voir en lui disant « Vas-y, t'as 40 ans, on s'entend super bien, machin. » Faisons un enfant ensemble.
Ouais, franchement, moi je comprends. Vraiment, je comprends.
Et ils ont fait ça, et ça se passe bien. Ils ont trouvé un appart, en gros, qui est relié en plus. Donc, ils ont vraiment un truc où ils vivent chacun.
Relié comment
leur... Bah, juste par une porte, tu sais.
Moi, j'aurais fait un toboggan, mais ça, c'est quoi quand t'as... Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'oseilles, c'est pour ça aussi.
Oui, t'as beaucoup d'oseilles. Mais on sait pas combien.
Mais c'est ça qui est cool.
En tout cas, tu ne sais pas combien.
Quand tu...
Et ça te permet de ne pas pouvoir répondre aux questions. C'est très bien.
C'est bien, hein, l'un dans l'autre.
Merci, papa.
C'était
merci,
un plaisir.
Merci
un
beaucoup,
plaisir. Mais je reviendrai pour Daron.
Avec grand plaisir. Ou Daron, même si tu veux, si jamais tu changes de sexe, pourquoi pas.
Je réfléchis à une vanne, j'ai pas encore. Non, j'ai pas.
Si t'as pas, c'est que il faut pas.
C'est qu'il faut pas changer.
Faut pas venir.
Non, je me sens bien dans ma peau.
Allez, salut.
Au revoir.